Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Historien de formation, Sébastien Jalade est écrivain et documentariste. Depuis quelques années, Sébastien s'est engagé sur les chemins périhispaniques de la cordillère des Andes. De cette expérience naît le film « La voix des Andes » dont il est le co-auteur avec Stéphane Pachot. C'est ce film qu'il est venu nous présenter sur le festival du Grand Bivouac. Son attrait des chemins l'ont amené à publier un récit « Sur le chemin des Andes » chez Transboréal. Il s'interroge dans cet ouvrage sur la façon de décrire ces montagnes sans échapper à nos illusions de conquête et d'exotisme. Même si nos chemins sont différents, tous les hommes sont sur la voie, donc on parlera de chemin un peu plus tard dans cette émission. Mais j'ai d'abord envie de m'intéresser à toi, Sébastien. Donc, qui es-tu? Quel est ton parcours? Et qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu prennes un chemin peut-être différent de beaucoup de gens? Tu as choisi le chemin du voyage et de l'expatriation.
Je suis franco-argentin, j'ai aussi la nationalité américaine, donc j'ai toujours grandi comme ça dans une ambiance d'exil. Lorsqu'on a une mère exilée, ça marque, je pense. Et un jour, j'ai ressenti, après des études d'histoire, je suis aussi historien, j'ai été journaliste de longues années, et donc j'ai décidé de partir pour l'Amérique latine. Alors, au lieu d'aller en Argentine, puisque ça aurait pu être le lieu évident, j'ai préféré le Pérou. Ça a commencé. Souvent, on nous demande d'expliquer quelque chose qui, en fait, s'est fait par impulsion. J'avais un ami là-bas qui vivait au Pérou. Et donc, j'ai réalisé que c'était... je suis allé le voir et j'ai réalisé que c'était un lieu qui me correspondait. Et surtout, je ne pensais pas y rester de longues années à l'époque. Mais très rapidement, je me rendais compte que si je voulais être sincère avec ce territoire, avec les films ou le livre maintenant que j'ai publié, c'est mon deuxième livre, sur le voyage, sur le Pérou, si je voulais être sincère avec ce lieu, avec ce territoire-là, il fallait que j'y reste de longues années, comme un grand apprentissage, par les livres, par le voyage, par la marche, par les gens qu'on y rencontre. J'ai toujours pensé que c'était nécessaire. Donc il y a eu toujours deux tensions, une tension en moi entre celui qui désire le voyage, l'imagination, l'exotisme, et puis de l'autre côté l'Argentin qui dit aussi que derrière tout ça il y a quand même autre chose et que si on veut être sincère il faut rester un peu là-bas. Voilà.
Donc, et se donner le temps.
Et se donner le temps, tout à fait. Et puis aussi un jour mon équilibre de celui qui consistait à rentrer en France pour travailler comme pigiste a fini par ne plus fonctionner, voilà. Et c'est peut-être là même où le véritable voyage a commencé, c'est-à-dire quand on ne pense plus ou qu'on ne prépare plus le retour. Et à ma manière, j'ai dû reconstruire une petite terre d'exil là-bas, voilà, avec des amitiés différentes, avec des projets différents, avec l'obligation aussi de me confronter aux nécessités de la vie, c'est-à-dire gagner de l'argent en vivant là-bas, par exemple. Donc c'était un rapport différent, mais ça ne m'a pas empêché de marcher. J'ai eu cette chance de pouvoir garder un certain équilibre, de continuer à aller marcher dans les Andes. Et donc c'est ce qui a donné naissance à ce livre pour lequel je suis aussi là, qui est sorti en avril dernier, qui s'appelle Espiritu Campa, sur les chemins des Andes. Voilà. Donc j'ai grandi en France à partir de l'âge de 5 ans. Oui, tout à fait.
Et tu as quitté la France à quel âge?
J'ai quitté la France tard, à 30 ans. J'ai travaillé plusieurs années avant et je suis pas un voyageur précoce, c'est-à-dire sans doute aussi parce que j'ai voyagé depuis très jeune. Je me souviens d'une époque où le fait d'être né aux États-Unis, le fait d'aller à Ushuaia, qui est un peu le premier lieu que j'ai découvert, où je suis allé tout seul quand j'avais 15 ans avec mon frère. On partait de Buenos Aires, on partait pas de Paris, mais c'était quand même très loin pour des jeunes, surtout il y a 20 ans. C'était un vrai voyage et c'était accessible à très peu de gens. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vois plein de jeunes qui partent à 24 ans, 23 ans, comme un rite initiatique. C'était pas été du tout le cas chez moi. Chez moi, c'était intégré dans ma vie, dans ma famille, dans nos amis ou les amis de la famille. Par contre, c'est vrai, après une phase comme ça de travail en France, ou peut-être j'ai mûri aussi certaines expériences, j'ai beaucoup travaillé, je suis historien aussi, donc voilà. J'ai eu le sentiment qu'il fallait quand même que je parte, mais plus sur la longue durée, donc une forme d'exil. Je dis pas expatriation, parce qu'expatriation, c'est comme si une entreprise qui t'envoie à l'étranger. Non, moi, c'était un exil, vraiment, je le vis comme ça.
Tu as choisi l'Amérique du Sud.
Pour moi, c'est très important quand ça passe par la langue. Dans tout ce que je peux faire, par la parole, l'espace que tu construis avec les gens que tu rencontres, ça passe beaucoup par la langue. Et donc une reconnaissance quand même. Souvent, il m'arrive de briser la glace par des jeux de mots ou par en utilisant ou en singeant des formes d'expression de l'espagnol au Pérou, par exemple. Si on rentre dans le registre de l'humour, ça brise beaucoup de glace. Quoi. Ça brise la glace et donc on se sent, on se rapproche. Donc moi, la langue est importante, effectivement. Donc ça a été inévitablement l'Amérique latine. Moi, j'ai toujours trouvé difficile d'attribuer une case d'abord aux gens, parce qu'on se définit pas vraiment, je trouve, par les métiers qu'on fait. Surtout qu'aujourd'hui, ces métiers sont de plus en plus complexes. On fait un petit job, on fait autre chose. Et que nos vraies passions, lorsqu'on a envie de vivre de ça, c'est difficile. Donc souvent, la vraie passion, elle est peut-être pas forcément celle qui génère le plus de revenus. J'ai été journaliste, mais je ne travaille plus pour des médias depuis quelques années. Documentariste, je suis le co-auteur du documentaire qui a gagné la Voix des Andes. Je suis en train de réaliser un documentaire sur une radio. Donc une radio communautaire d'éducation populaire dans les Andes qui diffuse en ondes courtes pour les communautés isolées, des messages qui permet aux paysans, aux ouvriers de s'exprimer. Donc c'est une radio de combat qui a été dynamitée 3 fois, donc j'ai ce projet là. Donc documentariste, oui, mais on en vit très peu, surtout en Amérique latine. C'est encore plus difficile au Pérou qu'en France, évidemment. Il y a le travail d'écriture. Donc je pourrais dire écrivain, mais je sais pas. Documentariste, j'aime bien, ça veut pas dire grand-chose. Finalement, on documente la vie, j'aime bien. Ouais, c'est quelque chose qui exprime très bien les choses que je peux faire. Sinon, je suis aussi historien, j'écris des articles pour des universités au Pérou, notamment. Parce que que pour moi, historien, ça ne traite pas du passé. Tout comme les chemins incas ne parlent pas du passé, ça parle du présent. Et il y a beaucoup d'enjeux d'identité collective, de conflits autour de cette question des chemins incas, par exemple. Parce que quand on voyage dans les Andes, le chemin incas n'existe pas. Les chemins incas n'existent pas en tant que monument. Si vous demandez à un paysan le chemin incas, il va vous regarder avec des yeux de bille. Pourquoi ? Parce que ce sont des voies de communication inscrites dans le présent. La façon dont nous on regarde le territoire andin ne correspond pas à la vision que les gens qui y vivent ont de ce même territoire. Et donc il y a un jeu. Il y a un jeu avec la mémoire, il y a un jeu avec l'exotisme. C'est évidemment, il y a un roman très beau de José María Arguedas, qui est le grand écrivain et anthropologue emblématique du XXe siècle au Pérou, qui s'appelle Les Fleuves Profonds, qui est disponible en français chez Gallimard. Et il raconte l'histoire de son histoire où enfant il suivait son père qui était un avocat itinérant sur les chemins entre Cusco et Ayacucho. On est au XXe siècle. Donc, ces chemins font un objet de mémoire collective. Est-ce que l'État péruvien et l'Occident, d'une manière générale, en faisant la promotion des routes incas, ne fait pas la promotion d'un symbole lointain, alors qu'on oublie que le XXe siècle et les chemins, il y a toute une histoire, il y a toute une mémoire populaire, les muletiers, les retables, les huaynos andins, il y a tout un tas de choses qui sont liées et qui sont attachées au chemin, mais on préfère promouvoir une vision un peu touristique, un peu du chemin, c'est-à-dire les grandes ruines et un passé inca idéalisé quelque part. Il y a beaucoup d'enjeux de politique et d'identité collective au Pérou. C'est véritablement un État qu'on appelle pluriculturel. C'est pas un État national, mais l'État péruvien a tendance à être extrêmement autoritaire. Et il y a une tradition de autoritarisme très forte. Et les chemins en sont l'enjeu, en sont l'expression aussi. Sont devenus un enjeu de ce point de vue-là.
Comment tu définis le chemin ? Qu'est-ce que c'est qu'un chemin pour toi ?
Pour moi, c'est des chemins de mémoire. J'ai réalisé qu'au 19e et au 20e siècle, tout un tas de gens qui ont vécu au Pérou ont été obsédés par l'idée du chemin. Je lisais il n'y a pas longtemps, en 1940, le texte d'un Italien qui s'appelle Antonello Gerbi, qui dit « Le Pérou est un chemin, el Pérou es un camino ». C'est la première phrase du livre. Et c'est vrai qu'on peut comprendre tout le Pérou, et pas que le passé et le présent, au travers des chemins, mais aussi on peut comprendre, je pense, au travers du Pérou, ce que peut être le chemin. Et on me parle, c'est-à-dire l'idée de la quête, c'est-à-dire le vivre ensemble, c'est-à-dire le sens la façon, je pense, c'est un problème de regard, en fait. On peut traverser les Andes, jouer à l'aventure, et penser que ces gens vivent de manière isolée, et que nous, on va vaincre la nature en surmontant les défis, les obstacles que représentent ces montagnes. Là, je viens d'énoncer 10 clichés. Il m'a fallu très longtemps pour ne pas me tricher à moi-même. Moi, quand je marche, j'ai pas envie de vivre et de porter ou de charrier mes clichés ou mes stéréotypes d'aventurier. Non, ces gens ne vivent pas de manière isolée. Ils ont été irrigués pendant des siècles par les anciens chemins, par les muletiers qui étaient en même temps comme des bardes. Ils transportaient les chansons de la côte vers les Andes, des Andes vers la côte. Donc non, ils ne sont pas isolés. Non, la nature n'est pas à conquérir. Ces chemins n'ont jamais été abandonnés dans les Andes, donc ils ne sont pas non plus à redécouvrir. Il y a beaucoup de choses comme ça. Les muletiers marchaient de l'Argentine jusqu'au nord du Pérou jusqu'au milieu du XXe siècle. Donc il n'y a pas... Voilà. Et non, ce n'est pas la grande route inca. Ce n'est pas une route, c'est un réseau. Hein, on ne dit pas la route romaine, on sait très bien qu'il y a un réseau de voies romaines. Et deux, ce n'est pas inca, c'est né bien avant, et surtout ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc ce sont des vrais chemins de mémoire et qui posent la question de qui on est, de la façon dont on se perçoit, y compris en tant que voyageur. Ça me confronte à tout ça.
Et aujourd'hui, quand on est sur ces chemins, qui est-ce qu'on rencontre ?
On rencontre des paysans, ce sont des zones rurales. On rencontre des mineurs, on rencontre beaucoup d'enfants qui vont, comme on peut voir dans le film La Voix des Andes, sur le chemin des écoliers, dans certains endroits, une journée ou deux de marche de toute route. J'avais perdu une fois une paire de chaussures dans la cordillère de Vilcabamba et j'ai vu surgir un gamin de 7 ans, il s'appelait Felipe, j'ai posé mon sac à dos sur la mule, ça m'a permis de marcher en chaussettes et de passer le col à 4002 avec lui, voilà. Et il allait à l'école. Et il allait simplement vivre chez ses cousins pendant 3 semaines. Donc toutes ces réalités-là, ces façons de vivre le chemin, voilà, ce sont ces gens-là. On rencontre parfois des marchands, mais aujourd'hui, c'est surtout des chemins parcourus par les gens et qui vivent autour, c'est-à-dire les paysans. Ce ne sont plus des grandes voies de communication, hein, évidemment.
Alors c'est vrai qu'on vit dans un monde de l'image aujourd'hui. On est vite dans l'imaginaire, dans les préjugés, dans les représentations. Le Pérou, quand je pense au Pérou, je pense à un bouquin que j'avais lu qui était un best-seller, La prophétie des Andes. Voilà, on mystifie vachement la cordillère des Andes comme un lieu sacré, magique. C'est un peu l'image, quand on ne le vit pas, quand on n'y est pas allé, qu'on a de l'extérieur. Est-ce que tu peux démystifier ça un petit peu ?
Oui, complètement. Alors, j'ai pas lu La prophétie des Andes, mais en tout cas le titre ressemble à... C'est un peu comme Les sept plumes de l'aigle. C'est une vision. Ce roman, bon, il est beau, hein, il est écrit sous forme de conte, il est bien écrit, et surtout, l'écrivain qui l'a écrit, un bon écrivain. Mais effectivement, derrière ça, c'est encore un peu l'image permanente du mysticisme chamanique, hein, c'est un peu le jeu, c'est comme voilà, le jeu avec l'ayahuasca, avec cette fascination pour l'ayahuasca, pour le chamanisme andin, pour les paysages telluriques qu'on irait, donc originels quelque part, qu'on irait rechercher là-bas, et c'est un peu toujours la même chose. C'est depuis l'arrivée des Européens là-bas, des étrangers, on a mis en Amazonie, on a mis dans les Andes tout un tas de fantasmes, alors le mythe du bon sauvage, les Amazones, les cités perdues, les cités d'or, tout ce qu'on veut, et effectivement ce mysticisme un peu néo chamanique ou New Age actuel est évidemment une de ces composantes-là, ou plutôt la version contemporaine. Donc il y a énormément de gens effectivement qui viennent se tenir la main dans des grands sites archéologiques, qui viennent fumer l'ayahuasca, prendre l'ayahuasca comme si c'était un rite initiatique. Bon, très bien, moi je juge pas, mais simplement c'est beaucoup plus, les Andes sont beaucoup plus complexes et le chamanisme a aussi une histoire. C'est pas quelque chose de ahistorique ou décontextualisé, ça a une histoire, et si on vient, d'ailleurs il y a souvent des histoires assez tristes qui se passent autour de ça, il y a eu encore un décès il y a 2 semaines, voilà, bon, si on y va pour consommer, quel est le sens de tout ça, c'est vrai que j'aimerais au moins qu'on pose la question. Je veux pas juger encore une fois, mais j'aimerais vraiment qu'on pose la question, en tout cas pour moi ça me parle pas de dialogue de culture. Oui, c'est une vision des Andes aujourd'hui où les Andes seraient le lieu des origines ou du traditionnel. Le vrai problème qu'on a aujourd'hui en Occident, c'est qu'on recherche désespérément l'authenticité. Mais bon, les historiens l'ont montré, c'est l'État moderne qui a inventé l'État national, qui a inventé la question même de la tradition. Hein, c'est l'historien Rick Hobsbawm qui vient de mourir. Donc on cherche cette authenticité désespérément, et c'est comme si les Andes, grâce ou par ou via le discours qui s'est développé depuis quelques décennies, touristique, mais aussi certains romans, un regard où on enferme les Andes dans un paysage de chaman qui serait le détenteur du secret des origines, ou des vérités cachées, ou toutes ces choses-là. Donc on enferme un peu les Andes dans ça, et évidemment, c'est très très loin. Il y a des chamans, hein, c'est pas la question, mais en tout cas, la rencontre n'y est pas, je pense, le plus souvent, à quelques exceptions près, extraordinaires en général d'ailleurs, mais... J'ai découvert, par exemple, que l'obsession du chemin, parce qu'à un moment, je me pose la question, pourquoi je travaille autant sur les chemins préhispaniques, comment les appeler si on ne doit pas les appeler les chemins incas, pour pas enfermer ces chemins dans un regard uniquement centré sur le passé archéologique, et garder un peu ces chemins dans leur contexte social d'aujourd'hui, et voir comment les populations paysannes se l'approprient. J'ai réalisé qu'en fait, il y a des auteurs au milieu du 20e, au début du 20e, au 19e, qui continuent en permanence à se poser la question du chemin. Donc en fait, on est dans un... C'est toujours très cyclique, la question du chemin et du Pérou revient. Tout comme, sans doute, la question de la fin du monde, entre autres, revient à chaque occasion. Bon, voilà, c'est l'avantage du temps long lorsqu'on est historien, c'est qu'on se rend compte que souvent, on répète beaucoup, simplement on le dit différemment, ou on le fait avec des valeurs ou des langues qui sont différentes, mais voilà.
Si on va au Pérou, on va arriver à Lima, j'imagine. Est-ce que tu peux me parler de Lima ?
Oui, Lima, j'en parle dans mon livre, j'en ai fait un chapitre, parce que j'ai voulu parler des 7 lieux emblématiques de la cordillère des Andes. Et donc j'ai parlé de Lima, qui se trouve sur les rives du Pacifique, à l'altitude zéro. Et c'était un peu ironique. Je crois que c'est l'endroit, c'est un peu la capitale des Andes péruviennes, et je dis ça comme une boutade, c'est-à-dire, c'est l'endroit où elle a, c'est une ville qui est d'origine... Qui était peuplé ces derniers siècles par des créoles, los criollos, les d'origine espagnole. C'est une culture aussi, il y a une culture afro-péruvienne à Lima, mais toutes ces cultures-là, surtout la culture d'origine espagnole, totalement déconnectée du contexte andin. Et il y a eu une immigration massive de populations rurales des Andes vers Lima, qui ont peuplé la ville. Donc elle est passée de quelques millions à 11 aujourd'hui. Donc c'est une ville qui s'est développée très vite. C'est une ville avec énormément d'inégalités, qui s'est développé de manière horizontale, donc très chaotique, qui fait peur à beaucoup de gens. Une ville aussi qui est un peu amnésique, qui a du mal à conserver son passé, ou à le mettre en valeur, ou à trouver une continuité entre son passé et aujourd'hui. Et il y a toujours cette différence, c'est pour ça que j'avais fait ce chapitre sur le Malecón, c'est-à-dire la promenade des Anglais, où on regarde le Pacifique, il n'y a aucun marin sur l'eau, forcément, puisque c'est une population de montagnards qui vit les pieds dans l'eau. Et au fond, c'est un peu notre destin à tous. On a beau marcher dans les Andes, on a beau aimer les Andes, parfois y voyager, parfois y vivre un peu, on finit tous un peu à Lima, parce que c'est là, c'est la capitale, et c'est là où se joue, où se nouent tous les enjeux politiques, culturels, sociaux. Donc c'est un peu la contradiction de cette ville. Elle est nécessaire pour moi, et je veux assez souvent la quitter.
Il y a d'autres grandes villes que Lima ?
Au Pérou, c'est la grande mégalopole. Oui. Au moins un tiers de la population du Pérou vit à Lima. Donc il y a quelques autres grandes villes, Arequipa, Huancayo, qui sont pour le coup deux villes plus dans les Andes, mais déjà on tombe à des villes d'un ou deux millions d'habitants.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Tu m'as parlé de Lima. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des Andais ? Comment on les appelle ? Des Péruviens, en fait.
Oui, c'est des Péruviens, tout à fait. Mais effectivement, c'est intéressant ta question, parce que on les appelle souvent, on dit les Quechua. Bon, mais les Quechua, c'est une langue, ça se définit pas à une population, on ne peut pas ethniciser la langue quechua. Il y avait des populations extrêmement différentes qui parlaient beaucoup de langues différentes à l'arrivée des Espagnols. Les Andes aujourd'hui ont connu, du fait du conflit avec le Sentier Lumineux dans les années 80, les villes andines ont grandi. C'est devenu maintenant souvent des gros bourgs qui sont au fond de la vallée. Hein, les Espagnols, quand ils sont arrivés, la civilisation a migré des hauts plateaux ou des hauteurs vers les vallées. Donc en général, on a toujours ce rapport où vous avez une ville, plus ou moins grande, au fond, d'origine ou pas coloniale, mais en général avec un petit centre, une petite place, et un va-et-vient entre les hauteurs où les paysans descendent donc vous avez donc plus on monte, plus en général on tombe dans des régions où les communautés sont restées sur des modes qu'on pourrait dire traditionnels, faux d'autres mots, mais disons qui cultivent ou qui travaillent c'est des zones rurales. Alors que dans les villes, il y a un flux de plus en plus important entre la côte et ces villes-là. C'est des villes hispanophones, évidemment. Alors que les hauteurs restent au moins bilingues.
Je t'ai contacté par mail. Tu m'as dit je viendrai en France. Pour l'instant, je vis à Lima. Pourquoi tu as choisi de vivre là-bas ?
Parce que je m'y sens bien. Parce que j'ai plus envie de revenir. Parce que j'ai dans ma famille, il y a trois générations d'exil. Successifs. Je suis argentin, donc tous les Argentins, enfin pas tous, mais beaucoup des Argentins d'aujourd'hui, au moins de Buenos Aires, sont arrivés par bateau. Hein. Les Argentins ont souvent cette blague qui est un cliché, mais tout le monde le sait que c'est un cliché. Les Mexicains descendent des Aztèques, les Péruviens descendent des Incas, les Argentins descendent du bateau. Donc c'est un jeu, mais c'est vrai que le grand voyage, finalement, d'un de mes grands-pères, par exemple, c'était italien. À l'époque où les régions du Piémont étaient extrêmement pauvres, vers les années au début du fin 19e, début 20e, ils partaient pour une vie entière. Et c'est pour ça qu'on retrouve des Basques, des Italiens, des Hollandais, des Allemands, mais surtout des Italiens, en Patagonie, dans la Pampa, etc. Donc on partait pour une vie entière. Et ma mère, ensuite, je l'ai vue grandir en France, moi j'ai grandi en France, mais on a tous les deux grandi ensemble en France, mais c'était une autre forme d'exil, et quelque part, je pense que le vrai voyage pour moi, c'était vraiment de partir et de m'ancrer, de jeter des bases là-bas.
Pour terminer, on est au Grand Bivouac, donc sur un festival dédié, consacré au voyage. Pour toi, Sébastien, c'est quoi le voyage ? Ça t'apporte quoi, voyager ? Qu'est-ce que c'est, voyager ?
Pour moi, c'est d'abord une grande liberté à mes racines. J'ai trois nationalités et je me suis un peu posé la question si je devais être arc-bouté sur chacune des trois ou essayer de les prendre et de les dépasser. Et donc j'ai trouvé une réponse ou une tranquillité qu'en vivant à l'étranger et en me sentant un peu loin de tout le monde, y compris de ma propre famille, que j'aime d'autant plus que je suis loin. Et c'est pas contradictoire. Ensuite, ce voyage sans retour, cette idée du non-retour, ou cette idée de oui, c'est quelque chose qui me touche. Mais je pense que le voyage, comme tout dans la vie, c'est une proposition, c'est un discours. Un scientifique dirait c'est un discours narratif, c'est-à-dire le voyage c'est une fiction et qu'on s'invente. Alors on y croit souvent, mais on peut aussi se mentir à soi-même, mais c'est aussi un discours et c'est aussi une fiction. Et donc si on abuse du voyage avec sa dimension trop exotique, on va finir par tromper et les gens qu'on laisse derrière soi et peut-être aussi conquérir ceux qui sont là-bas. C'est-à-dire, j'avais pas envie de faire un voyage conquérant. Donc le voyage, on peut l'appeler le voyage, on peut l'appeler l'exil, on peut l'appeler la sédentarité à l'étranger, on peut l'appeler de plusieurs manières. L'aventure un peu moins, mais je suis plus réservé. Mais pour moi, voilà, c'était ça le voyage.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Cette émission est proposée et montée par l'association Regarde ailleurs. Pour mieux nous connaître, rendez-vous sur notre site internet www.regardailleurs.org.